Donc vous avez bien compris qu'on en est dans le début des programmes qui effectivement ont commencé à être financés, je crois bien, autour du mois de mai. Donc ça fait 6-7 mois. On voit bien que vous êtes dans une phase de construction de la méthode et d'une démarche interdisciplinaire, et ça m'a l'air bien avancé. Et je dois dire que je suis assez impressionnée par le travail de convergence, puisqu'au début, on était parti avec des injonctions de regroupement sur des projets qui étaient de plus petite taille, peut-être plus mododisciplinaires. Et ces équipes de départ me semblent aujourd'hui bien fondues dans la construction problématique que vous nous avez présentée. Vous pouvez vous poser des questions entre vous aussi, bien évidemment.
C'était une réflexion au sujet de la dernière intervention sur la singulariser les territoires de montagne, la labellisation. C'était une réflexion par rapport à ce qu'on fait nous dans le cadre de notre équipe, dont l'originalité est un peu de partir très loin dans l'histoire pour arriver jusqu'à aujourd'hui, puisqu'on démarre au XVIe siècle et qu'on entrevoit différents aspects sur ce long terme. Et quand je vous écoutais évoquer la mise en récit du territoire ou la construction de savoir, je me disais qu'on avait certainement des choses à partager, puisque vous, si j'ai bien compris, c'est quand même une approche qui est très très liée à l'époque contemporaine. Vous êtes sur la période essentiellement 20e, j'imagine, peut-être un petit peu 19e.
Sur la période, je dirais dans un premier temps, même si je pense peut-être Karine pourra aussi compléter, mais on va prendre en référence la période qui correspond à la mise en place des labels, en fait. Donc on est vraiment sur du récent.
Est-ce que ce serait envisageable de remonter un peu le temps et d'essayer de voir cette mise en récit, une création de savoir qui remonterait hein, des temps plus lointains?
Oui, oui, bien sûr, volontiers. Mais bien sûr, j'ai répondu peut-être un peu rapidement dans un premier temps. La période de référence qui est celle par laquelle on entre dans les territoires, c'est pour reconstruire les parcours qui conduisent au label et au-delà des labels. Alors la manière dont ils sont reçus, dont ils évoluent, on peut tout à fait, et je pense que ce sera fait, parce que finalement les dossiers de candidature très souvent reprennent des éléments beaucoup plus anciens, et forcément quand on mobilise des contenus qui ont à voir avec les aspects d'identité profonde sans doute des territoires, on remonte sans doute même assez loin, oui. Moi, je veux bien essayer de rebondir du coup dans le même esprit. On a forcément des recoupements en fonction de ces territoires sur lesquels nous sommes. Je pense qu'on verra au fil du temps, dans l'avancement, comment on va pouvoir rapprocher nos réflexions, mais le contenu de la labellisation nous intéresse comme processus permettant de redonner des contenus à ces territoires de montagne. Je pense que c'est ce qui est fait aussi dans Télimep, c'est ce qui est fait dans Vivap, c'est ce qui est fait dans Écosystème aussi d'une autre manière, mais on est un peu tous pris par cette question-là. Certains mettant plus l'accent sur des contenus d'habiter, donc des contenus du point de vue des sociétés, du point de vue des acteurs qui peuvent porter des enjeux, y compris donc économiques, mais d'autres s'intéressant davantage aux aspects de limites, enfin de comment dire, de territoire limite, voilà. Dans la labellisation, il y a aussi cette dimension-là, quoi. On sent bien qu'il y a une manière d'interroger là aussi ce qui peut être stable ou instable dans les territoires.
Bon, moi j'ai une grande curiosité à la hauteur de l'intérêt que j'y porte sur l'écosystème du tourisme sportif. Et d'abord, je trouve ça super intéressant, mais vraiment très très intéressant le modèle tel qu'il a été construit. Mais Malek, tu m'as interpellé sur la notion d'écosystème, et en plus je suis interpellé en termes de sport de nature. L'écosystème, c'est quelque chose qui a été quasiment abandonné d'un point de vue scientifique au profit d'une forme de connexion en écologie scientifique, parce que dès le départ, il y a eu une dispute sur la part de hasard et l'organicisme, c'est-à-dire le fait que on a un émergentisme d'un être complet et en équilibre. Et ça s'applique vraiment à votre travail. Et donc la question que je me pose, c'est quelle est la part dans vos hypothèses? Est-ce que vous avez envisagé, parce que vous parlez des fédérations, elles sont pas rhône-alpines en l'occurrence. Les usagers, ils sont pas rhône-alpins, ils sont européens, voire mondiaux, etc. Comment vous intégrez cette espèce de perméabilité entre ce que vous étudiez et puis des facteurs qui sont pas macro, mais plutôt mis en réseau de ce point de vue-là?
À ma connaissance, on n'a pas forcément fait d'hypothèse là-dessus, en tout cas pas formelle, et c'est peut-être une erreur, mais on est plus dans une démarche de dire ces facteurs macro, on va les prendre en compte s'ils sont, si on les voit aussi dans les discours et dans la façon dont les gens interprètent leurs pratiques et parlent de leurs pratiques. Donc il y a à la fois une observation des pratiques et des discours que les gens tiennent autour de ces pratiques-là, et on espère, chemin faisant, si je puis m'exprimer ainsi, observer les liens avec des éléments macro. Mais moi, j'en suis pas encore à formuler des hypothèses là-dessus, je dois dire. Ça va sans doute venir, et cette idée d'émergentisme versus écosystème me paraît vraiment intéressante. Donc je prends des notes, et puis on se reverra dans un an. Et c'est vrai qu'à un moment donné, la question de la frontière de la pratique qui tient à la montagne va vraiment se poser, va rejoindre alors complètement les préoccupations sur lesquelles vous êtes, mes collègues, sur la liminalité, et puis sur lesquelles sont des membres de l'équipe. Parce que justement, qu'est-ce qui fait que c'est une pratique finalement liée à la montagne? Est-ce que c'est d'où ça vient, et est-ce que ça peut s'exporter? Est-ce que c'est hors sol ou est-ce que c'est ancré? Et là, j'espère qu'on aura dans nos terrains d'observation peut-être des exemples. Ça pourrait être aussi un critère dans nos choix d'études de cas, de choisir des pratiques qui peuvent être déterritorialisées ou pratiquées ailleurs, et puis d'autres qui ont une dimension montagne absolument indispensable ou intrinsèque, je ne sais pas vraiment quel est le mot. Mais je trouve que c'est une piste vraiment intéressante. Merci. Si tu
veux compléter. Ah oui, peut-être pour les fédérations, il y a quand même quelques fédérations qui sont, si elles ne sont pas localisées en Rhône-Alpes, elles sont très attachées à Rhône-Alpes. Hein. Fédération de ski, de parapente. Il y a aussi des regroupements de professionnels, des moniteurs d'escalade, etc. Quand je disais tout à l'heure, c'est que en faisant le lien avec l'écosystème en biologie, hein, c'est juste sur l'idée que l'écosystème d'affaires, donc l'écosystème d'innovation sur lequel on fait des hypothèses aussi, c'est le rapprochement, il se fait au niveau de la coévolution et de la compétition, en fait. Après, s'il y a des éléments qui sont dus à des connexions entre des acteurs à l'intérieur, etc., on va le voir sur le côté des triangles que Dominique a présenté tout à l'heure. Mais certainement, quand on travaillera sur l'émergence des nouvelles pratiques ou des innovations à partir des usagers, on ne peut pas faire l'économie de ne pas prendre en compte les communautés de pratiquants utilisant les réseaux sociaux, Internet, etc. C'est sûr. Tout à fait. Après, pour bien comprendre quand même ce qui va être le fil conducteur, c'est quand même les innovations majeures, c'est-à-dire qui bouleversent le marché ou qui vont mettre le territoire rhône-alpin, le marché rhône-alpin, le mettre vraiment au niveau compétitivité. C'est ce qui va faire la différence, en fait, et ce qui va le rendre attractif.
Vous nous avez pas tellement. Vous avez présenté votre trame méthodo, mais après, quels vont être vos matériaux? Est-ce que vous allez travailler avec des entreprises? Et je pense qu'il y a Nathalie là du cluster. Est-ce que vous allez faire une sélection de produits ou d'usages? Et effectivement, comment est-ce que vous allez éventuellement échantillonner ce sur quoi vous allez travailler?
C'est vraiment un casse-tête la méthodo, parce qu'on fait travailler plusieurs disciplines ensemble et on a trois entrées avec des liens complexes. Mais certainement, j'en ai parlé avec Nathalie, certainement on travaillera sur peut-être la partie techno, elle va être un peu plus forte. Sur la partie techno, il y a plusieurs types de secteurs ou de filières. Il y a l'aménagement de la montagne, mais il y a aussi tout ce qui est aménagement et articles de sport pour les personnes. Est-ce qu'on va faire l'impasse sur les services, etc. C'est des bonnes questions. Mais comme on est les trois disciplines majeures, quand même, c'est la gestion, les sciences de gestion, l'histoire et la socio-économie. Donc, ça va certainement guider nos choix. Ça, c'est sûr. Tu veux compléter, Dominique ? Mais c'est une question qui est très difficile.
En fait, il y a plusieurs axes entre les entrées sur les pointes du triangle que j'ai donné et puis sur les côtés de ce triangle. Donc, prenez juste un exemple, la partie qui passe de usage émergent, voire dissident, à appropriation par des entreprises. Finalement, le type d'entreprise qui va être investigué, ça va dépendre, ce morceau-là va vraiment dépendre de ce qu'on choisit d'observer au niveau des pratiques. Voilà. Après, il y a d'autres entrées, plus strictement entreprises, et là, l'échantillonnage sera différent. Mais il est clair que l'intérêt, c'est d'aller croiser un peu les deux et de voir quel usage des entreprises de ce secteur-là font de cette information-là avant qu'on vienne leur poser la question. Quel usage ils en ont déjà fait dans leur processus d'innovation. Donc, c'est en ce sens-là que moi, j'ai pas une réponse très figée sur l'échantillonnage en termes d'entreprises pour l'instant sur cet axe usage, en tout cas. Voilà. Mais c'est un vivier qu'on espère bien mobiliser.
Enfin, répondre aussi en partie à la question, c'est certainement sur la partie approche par les institutions, c'est clair que les regroupements d'entreprises type cluster, parce qu'en Rhône-Alpes, on a quand même le cluster montagne, on a un autre cluster sur les articles de sport, il y a Sport Altech, etc. Il y a d'autres regroupements. Certainement, ça sera une partie importante du terrain. On en parlait tout à l'heure sur avec justement Nathalie sur les premiers résultats qu'on commence à avoir sur cette partie-là. C'est qu'on se pose sérieusement la question sur si vous voulez quand les institutions s'y mettent aussi à l'innovation, facilitant, en encadrant, en finançant, etc. Elles s'y mettent souvent avec l'idée noble de réduire les coûts quelque part ou de mutualiser les coûts, certains coûts lourds pour les entreprises. Mais dans certains cas, et en l'occurrence ici, on peut s'apercevoir qu'elles créent des coûts supplémentaires qui sont liés à la recherche de financement ou d'information ou de partenariat. Donc là, certainement, on va creuser bien comme il faut.
Oui. Je rebondis sur ta proposition. C'était une réflexion que je me faisais en écoutant votre présentation, dans le sens où il y aurait peut-être, ça fait écho aussi un peu à ce qu'a proposé Jean-Pierre, mais il y aurait peut-être à travailler ces questions d'écosystème des sports de montagne du point de vue un peu géographique, de comprendre ce que sont les échelles impliquées là-dedans finalement, parce que vous êtes parti sur une échelle extrêmement large, la région, on sent bien qu'en plus c'est certainement au-delà de ça est-ce qu'il n'y aurait pas intérêt à questionner, parce que tu as posé un présupposé qui était qu'il y avait un ancrage parce qu'il y avait, j'ai noté le terme que tu as employé, en fait il y avait cet avantage comparatif montagne. Okay. Moi, j'aimerais bien comprendre ce qu'il y a dans ce contenu d'avantage comparatif montagne, tu vois. Ça m'intéresse du point de vue des labels aussi, d'une certaine façon. Hein. C'est-à-dire que, est-ce que c'est une question de proximité et quel contenu on va donner à proximité, sur quel type de périmètre ça peut se raisonner, est-ce qu'il n'y a pas des effets d'échelle de ces logiques-là, quelle est l'échelle de visibilité, enfin, bon, je vois, c'est... Il y a bien une dimension d'explicitation, tu vois. Il vous faudrait un géographe dans l'équipe, en fait. Il y en a... Pardon. Excuse-moi, Philippe. Ok, je te donne...
La question de la montagne.
Merci. Non, je ne sais pas comment je peux compléter le propos déjà très élaboré de mes collègues. C'est vrai que, comment dire, la perspective géoculturelle qui est la mienne, elle se retrouve très largement dans les différentes dimensions du projet, y compris dans la façon dont Malek et Anne le traitent. Hein, moi, je suis rattaché à l'équipe pilotée par Dominique autour des questions de dissidence. Et où là, en fait, on va appréhender les choses à la fois de manière très globale. Dominique l'a évoqué en allant... en faisant de la fouille internet notamment pour identifier des pratiques divergentes ou dissidentes de très loin, donc simplement en relevant leur présence. Hein. Alors comme toujours quand on travaille sur internet, on sait, il faut se méfier parce qu'il y a des choses qu'on voit beaucoup qui sont peut-être très marginales, puis des choses qu'on ne voit pas et qui peuvent être très répandues. Mais donc ça c'est un des premiers axes. L'autre axe il est beaucoup plus là géographique puisqu'on va mettre en œuvre une démarche empirique à l'échelle d'une station, hein, qui sera vraisemblablement Champs-Rousses, choisie pour des questions de, à la fois de dualité d'une fréquentation de proximité avec la métropole grenobloise et puis de fréquentation touristique en séjour. C'est vrai qu'on a une petite hypothèse quand même liée au fait que les marges de manœuvre dont disposent les usagers, les pratiquants pour être dissidents, pour diverger de la norme, ces marges de manœuvre sont peut-être plus fortes quand on connaît bien le terrain, quand on a une forme de familiarité, de peut-être de maîtrise technique dans la technique sportive, de maîtrise de l'espace aussi, hein, pour peut-être sortir des cadres, alors que c'est peut-être plus difficile sur le plan sportif quand on est en séjour. Mais on ne renonce pas pour autant à essayer de comprendre ce qui peut se passer dans des séjours touristiques apparemment très réglés, très normés, dans une forme d'infradissidence. C'est aussi une autre approche qui va être la nôtre. Donc là, ça va être une approche micro-sociale et micro-géographique. C'est Jean Corneloup notamment qui va diligenter cette approche-là. Alors que et donc dans le même temps, donc là, je passe de la question de l'échelle géographique, donc dans le local. Bien entendu à l'échelle de la station essayer de comprendre ce qui se passe dans les interstices, dans les marges de la station et du domaine skiable, hein, sachant que ce qui nous intéresse ce sont les pratiques qui sortent d'une certaine façon qui sortent de ce qui est censé fabriquer l'aménagement d'un domaine skiable, c'est-à-dire des comportements attendus. L'aménagement d'un domaine skiable, c'est une formule que j'emprunte à Olivier Soubéran. L'aménagement fabrique des comportements attendus. Et nous, ce qui nous intéresse, bah, c'est ce qui diverge par rapport à ces comportements attendus. C'est pour ça qu'on envisage de commencer par un travail d'enquête, d'entretien, auprès des acteurs de la station, pour déjà essayer de leur faire définir ce que c'est qu'un comportement attendu. C'est-à-dire quel est pour eux le comportement standard, normal, d'un visiteur. Et bon, c'est un peu, comment dire, une approche par les fondamentaux, hein, mais on se dit que ce serait intéressant de voir ce qui sort de cette approche-là. C'est quoi un touriste normal? C'est quoi un skieur normal? Celui qui vous pose pas de problème, celui que vous voulez avoir, qu'est-ce qu'il fait? Il arrive où? Il arrive quand? Il fait quoi? Comment? Etc. Puis éventuellement, qu'est-ce qu'il fait pas? Pour essayer d'arriver avec eux après à l'explicitation de ce qu'est justement un comportement inattendu, imprévu, impensé. Ce sur quoi on va ensuite se focaliser. Voilà, donc on va naviguer entre ces échelles géographiques, culturelles, sociales. Je sais pas si j'ai répondu à la question, mais j'espère vous avoir donné à voir un petit peu la matière, en tout cas pour notre approche. Alors après, voilà, donc c'est pas spécifique à la géographie, mais voilà, c'est... Merci.
Mais finalement, dans les différents projet que vous nous avez présenté, il y a toute une diversité dans la manière d'approcher l'innovation, avec pour plusieurs d'entre eux une innovation un peu par le bas. Dans le Val de Suse, c'est le contestataire d'un grand projet et ce qu'il peut apporter dans les transformations économiques. Le touriste qui casse un peu les pieds parce qu'il reste pas sur les pistes. Les personnes âgées aussi, quelque part, elles sont embêtantes, quoi. Faut s'en occuper. Reste alors cette approche par le bas, et puis vous les saisissez aussi dans le rapport entre les institutions et ces innovations. J'ai moins vu cette articulation innovation institutionnelle, innovation par les usages ou les usagers dans le programme sur singularisation. Et je voulais vous demander si tu as dit, Véronique, finalement, le label, c'est une sorte d'innovation par les institutions. Est-ce que quelque part, vous envisagez d'examiner comment est-ce que ça peut rencontrer les usages, les usagers et fabriquer de l'innovation sociale ou de l'innovation par le bas?
Oui, merci pour cette question. J'ai terminé effectivement sur cette question-là parce que c'est une question ouverte qui est amorcée quand même dans un des volets en particulier qui s'intéresse aux dynamiques de labellisation du point de vue des enjeux de superposition ou de mise en réseau et de mutualisation des labels. J'ai mentionné les travaux d'enquête que conduit Mélanie Duval dans les sites palafitiques, où là il s'agit bien d'interroger les touristes qui sont présents sur les sites, pas nécessairement d'ailleurs pour voir ou pas nécessairement parce qu'ils ont entendu parler de ces sites palafitiques, et qui peut être intéressant du coup de constater la non-visibilité dans toutes ces dimensions. Donc voilà, ça c'est une enquête spécifiquement dédiée aux usagers des lieux qui a été déjà largement engagée. Je crois qu'elle a fait quelque chose comme 400 entretiens cet été. Ce volet-là va peut-être répondre en partie à la question. Ça suffira pas. Il y a tout un volet qui recoupe celui des récits où il s'agit de collecter les paroles plutôt d'habitants, et de comprendre comment on peut interroger leur perception, je crois que Karine est arrivée, donc elle va aussi m'aider à répondre pour le coup, vont engager leur adhésion, plus ou moins, ou relative à ces labels. Voilà.
Bonjour et merci à Véronique d'avoir bien voulu présenter ce projet. Oui, pour répondre à cette question, l'entrée par le récit, elle permet d'appréhender un peu doublement les choses. D'abord, effectivement, la question institutionnelle, c'est-à-dire la manière dont le rapport au territoire se construit à travers des attentes que le label est censé traduire et en même temps construire dans son processus d'élaboration. Et puis, effectivement, l'entrée par le récit, elle, on l'espère, permettra d'appréhender la façon dont habitants, usagers se situent par rapport à la vision, je dirais, du territoire qui est produite à l'occasion de la labellisation. Et est-ce qu'on va avoir une attente par rapport à des changements aussi du côté de cette perception habitante? Voilà, c'est une entrée justement dont on attend la possibilité d'appréhender la multiplicité des projections, des points de vue, des imaginaires sur le territoire et voir à quel point l'image contenue derrière le label, l'image du territoire contenue derrière le label, coïncide ou pas avec ces perceptions habitantes.